RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec l'athlète membre de l'équipe de France. Un spécialiste du fond, ancien spécialiste du demi-fond, Yoann Durand. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ça va te parler mon gars, là. On va parler de la piste.
Ah oui, là je suis content, là c'est mon élément là.
Ah là tu y es là.
Je retourne en enfance.
Exactement, la piste, la salle, les courtes distances, tout ça, ça va te parler. Rejoignez-nous, continuez sur les réseaux sociaux, Instagram et le club RMC Running sur Strava. Postulez également pour notre tentative de record du monde le week-end du 8-9 juin à Charletti. Et on vous l'a dit, on vous propose un bel épisode aujourd'hui. On reçoit une étoile montante de l'équipe de France d'athlétisme. Agathe Guillemot, finaliste du 1500 au championnat du monde en salle la semaine dernière à Glasgow. C'était sa première grande finale mondiale, elle va nous raconter tout ça. On va en profiter pour débriefer les mondiaux pour l'équipe de France, on en ressort avec deux podiums. Et puis la séance sera adaptée au profil d'Agathe. Comment aborder les courses avec confiance, Yoann? T'as beaucoup bossé le sujet. Là,
oui.
Tu vas nous donner des conseils, mon vieux.
Parce que moi, je suis un athlète qui arrive en confiance le jour de la course. Et donc, je sais de quoi je parle.
Et on le fait avec Agathe parce qu'elle n'a peur de rien ni de personne. Et c'est sa spécialité. Donc, elle pourra vous donner de bons conseils. Et on a un magnifique bon plan matos. C'est lié à la vitesse, d'ailleurs. On va vous faire gagner une paire de Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Des chaussures quasiment sans talons. Vous allez regarder sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est un modèle ultra rapide de la marque japonaise. On sera avec le responsable marketing Mehdi Trabelsi qui viendra nous la présenter. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets et on retourne tous en salle.
En fait, quand j'étais jeune, j'étais un peu touche à tout et que j'aimais faire plein de choses en même temps, j'ai choisi de faire des épreuves combinées.
Le changement, c'est maintenant!
On a Agathe Guillemot également sur 1500 mètres sur la même distance en 4.04.64.
Il y avait plein de choses qui faisaient qu'aujourd'hui je pouvais parfait et aujourd'hui je suis déjà hyper satisfaite de battre ce record de France.
Donc si elle bat un record de France à chaque fois qu'elle fait une compétition, je pense qu'elle a pas fini de nous surprendre.
Qui a obtenu, elle, les minima pour les mondiaux en salle de Glasgow début mars.
Allez, Agathe!
Agathe, moi ça me bluffe.
J'aime bien ce côté-là justement du demi-fond où, enfin, à un moment donné, quand je suis en course, je me pose plus trop de questions et j'ai envie de vivre l'instant avec. C'est une séance un peu particulière, vous allez voir. C'est une séance tampon. 5 fois 800 mètres, mais en fait on fait 150 à bloc, sprint, et après on tamponne sur 650. C'est à l'allure 3.15, 3.20 au kill quoi. C'est trop bizarre comme séance.
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai!
Agathe Guillemot, pas loin du record de France. Hein. Elle est passée entre 4-4 et 4-5, mais une très belle course une nouvelle fois pour la Française.
Que où est-ce qu'elle va s'arrêter, c'est pareil, on a hâte de voir la suite.
Agathe Guillemot, record woman de France du 1500 en salle en direct avec nous en studio. Salut Agathe!
Salut, salut!
Et Agathe, merci d'être là. On est moins de 48 heures au moment où on enregistre de ta finale à Glasgow, ta première grande finale mondiale. Ça va, t'as récupéré?
Oh bah oui, j'essaye. Enfin, j'ai pas tout mis en place. Hein.
Ouais.
Je vais te dire, après la course, j'ai pas trop fait de footing de récup.
Voilà, au moins t'as savouré quand même.
J'ai savouré. J'ai...
Bien sûr.
J'ai bien mangé, j'ai bien dormi et puis on est prêt à repartir.
On va en parler, mais tu parlais surtout de fatigue nerveuse. C'est pas tant physique finalement ce genre d'épreuve, mais c'est plutôt nerveusement que ça fatigue. Tu pourras nous en dire plus. Ah, c'est une pépite qu'on a là, Yoann. Hein. On est ravis de l'accueillir. On en avait parlé justement après Liévin. On l'attendait à Glasgow parce qu'il y avait une petite équipe de France. On va y revenir aussi, mais... Elle a répondu présent, en tout cas. Elle s'est qualifiée pour la finale. Elle était pas loin. Elle a battu le record de France. Hein. Elle est record woman de France du 1500 en salle. Là, on a quelqu'un avec nous. Hein.
Bah, c'est dans la lignée de ce qu'elle fait depuis 2 ans maintenant, avec une progression assez linéaire, avec une progression à chaque sortie. Elle avait passé des paliers, elle est allée au monde l'été dernier, malheureusement ça s'arrête en série, là elle va au monde, elle passe en finale et là elle fait 7e c'est un nouveau step, hein, 7e des championnats du monde, même si c'est des championnats du monde en salle, justement c'est pas évident, donc c'est impressionnant et puis c'est surtout au-delà de l'aspect place, c'est le côté chrono aussi qui est fort. Avec des records, le record de France de mile, le record de France du 1500 en salle. Effectivement, le record de France plein air de 3.59 peut trembler dès cet été. Ouais.
Comment on est, Agathe, quand on est comme ça une jeune athlète qui perce au plus haut niveau, qui est championne de France hein, en plein air, on le rappelle, qui a battu le record de France en salle à Liévin, c'était quelques semaines avant. Au moment de te présenter sur une finale mondiale, est-ce qu'il y a quand même un aspect, une pression particulière? Est-ce que tu as ressenti un truc particulier dimanche soir?
Bah forcément, c'est une finale mondiale. Donc,
T'es tendu, t'es excité, t'étais dans quel état d'esprit, toi?
Pas trop tendu, plutôt excité et envie de s'exprimer du mieux que je pouvais. Et après, il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait de l'enjeu, même dans la chambre d'appel, juste avant la course. Toutes les filles sont hyper concentrées et on sent que tout le monde a envie d'être sur la boîte avec une médaille.
Il y a de l'intox un peu? Tu vois, peut-être qu'elles sentent que tu es un peu jeune et qu'elles veulent t'impressionner un peu ou non, pas trop?
On n'a pas trop le temps de faire de l'intox. On a 10 minutes, il faut qu'on chausse nos pointes, mettre le dossard, les vérifs avec les officiels. Donc on est plus dans notre bulle et puis non, je pense pas qu'il y ait de l'intox.
Et en plus, ceux qui ont fait la programmation, Yodu, ils ont eu la bonne intelligence de mettre la course en dernier. Du coup, on commençait à tout ranger dans la salle à Glasgow, qu'elles n'avaient pas encore couru, les pauvres. Ça devait être particulier à vivre, regarde, c'est sûr.
Ouais, c'était un peu bizarre quand je faisais mes dernières lignes droites avant de rentrer justement dans la chambre d'appel. Ouais, les officiels rangeaient les affiches.
Vous éteindrez la lumière en passant, la dernière.
C'est ça. Et vous passerez le balai, s'il vous plaît. Ouais, bah d'accord.
Bon. Mais bon, c'était aussi plaisant de faire partie de cette finale.
C'est sûr.
Donc, bon.
Et tu peux être fier de toi. En tout cas, nous, on a vibré en te suivant, notamment en série. Tu as remporté ta série, ce qui est quelque chose hein, sur des mondiaux en salle. On a toujours la même question pour démarrer nos podcasts avec nos invités, que les invités soient des athlètes pro ou amateurs. Pourquoi tu cours, Agathe, tout simplement?
Pourquoi je cours? En fait, je cours.
Pourquoi elle lance plus aussi?
Ouais. Ah oui, bah ça on en parlera aussi.
Non, il fallait surtout demander pourquoi je lançais.
Ouais. C'est vrai, t'étais la reine des épreuves combinées avant. Ouais.
Mais pourquoi je cours? Non, je cours depuis que je suis toute petite. En fait, je déteste marcher déjà, je pense que c'est déjà la base. Quand je faisais des randos avec ma famille, je courais et je les attendais.
Pure bretonne, on l'a pas dit encore, mais bon, ça va vous paraître évident d'ici quelques minutes.
Mais non, je pense que c'est dans mon équilibre. Je cours, ça me fait plaisir de courir. Et en tout cas, un jour sans courir, c'est dur.
Ouais. J'ai vu la déclat de ton coach Marc aussi qui disait « Bon là, 3 jours sans sport, ça va être délicat. C'est pour ça qu'on la remet au cross dès ce week-end. » Tu vas pouvoir nous en parler. On fait ça juste après ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
Rappelle-nous ton âge, Agathe, s'il te plaît.
24 ans.
Et tu cours depuis que t'as quel âge?
Ma première licence, c'est à 8 ans. Ma première course, 7 ans.
7 ans! Ah ouais, là on a un vrai produit de l'athlé, quoi.
Baby athlé, école d'athlé, crack.
J'ai tout fait.
Voilà. Bah, c'est pour ça, et en plus elle a fait toutes les disciplines de l'athlé.
Mais c'est une vraie passion l'athlétisme, du coup.
Oui, c'est ça. Je me suis jamais lassée et à aucun moment je me suis dit je vais faire autre chose.
Tu cours combien de fois par semaine?
Combien de fois? Beaucoup de fois. Ouais. Non, je sais pas.
Tu fais du bi-quotidien beaucoup?
Oui, je fais du bi-quotidien. Après, pas forcément avec 2 séances de course à pied, mais je dirais 7-8 fois quand même dans la semaine de course. Et après, derrière, y a la musculation, il y a du vélo et de la préparation physique.
Parce que nous, on s'adresse plutôt à des coureurs de fond, des marathoniens, semi-marathoniens. Tu fais combien de kilomètres par semaine? Est-ce que tu le sais, toi, d'ailleurs?
Oui, je le sais.
Tu surveilles?
Cet hiver, j'étais, on va dire, autour de... J'ai fait entre 90 et 125, je crois que c'est ma plus grosse semaine. Ouais. Et là, dans la période de compétition, j'ai vraiment essayé de maintenir un volume quand même, parce que la saison hivernale, c'est pour faire du volume. Donc j'étais autour de 80-90 quand même dans la saison hivernale. Et puis, en plus, à côté de ça, je fais du vélo... Pour
faire de la caisse, entretenir tout ça et faire un sport porté, quoi.
Ce que j'essaye, c'est d'avoir un volume au final comme si je courais 100 bornes semaine, soit 80 à pied et on va dire les 20 dernières, je le fais sur le vélo.
Tu combles un peu en temps d'entraînement. On est sur des volumes raisonnables à Yodu pour du 1500?
Pour du 1500 femmes, ouais, mais c'est pas mal. Hein. Et c'est bien d'avoir eu cette approche cet hiver de maintenir du gros volume, parce que la problématique du coureur de 15, c'est qu'il est un peu à la frontière entre le sprint long et l'endurance du 5000. Tu vois, t'es un peu entre le 800 et le 5000. Donc effectivement, t'es entre volume et intensité, c'est un équilibre à trouver et c'est quand même bien de faire pas mal de volume, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur 1500, faut enchaîner les tours, faut enchaîner souvent 3 tours et ça demande, si tu veux être fort le jour de la finale, de faire 3 1500 en 6 jours, il faut avoir une base foncière élevée, donc faut malgré tout faire du volume.
Et là, c'est un spécialiste qui te parle. Donc, bon, toi, tu le sais, tu connais ça par cœur, mais on peut vraiment faire confiance à Ayodhya là-dessus. Question assez marrante avec toi, un record perso dont tu es fier. Bah, le 1500, évidemment. Alors, t'es plus fier du ouais, 1500 plein air ou du 1500 en salle?
Là, je pense plutôt de mon 1500 en salle.
Bah oui, record de France.
C'est quand même plus impressionnant. Et
tu peux nous le rappeler d'ailleurs?
4:04.64. 4 voilà. Minutes 04.
Solide, Yodieu, hein, record de France.
Un autre record, 3m30 à la perche en
minime. Allez, 3m30 Allez, bravo. Magnifique.
Pas peu fier.
Bon, dernière course disputée, là aussi c'est marrant, mais c'était forcément Glasgow, les mondiaux. Quelle sera la prochaine course?
Ça va être les France de cross. La première sera dans le cadre du Rolex Cross avec l'équipe du HBA, Haute-Bretagne Athlée, et ouais. Le lendemain sur le cross court.
C'est ce week-end, hein, c'est là. Hein.
C'est là, ouais. Ouais. Dans quelques jours. Ouais.
Ok. Bon, bah, et les distances, c'est quoi?
Du coup, sur le relais, c'est 4 fois 1500 mètres. Mm-hmm. Donc, ça, je connais à peu près.
Ouais.
Et par contre, le lendemain, du coup, ça sera 4 km 700, quelque chose comme ça.
Ah, ça va te faire tout drôle.
Je connais moins, ouais.
Ouais.
Ça va falloir être patience.
Ouais, c'est ça.
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boue, donc ça peut t'avantager aussi. Ouais. Oui. Ça va pas être un vrai bourbier, un vrai terrain de cross, ouais.
Ouais, mais pff, t'imagines, tu te retrouves à côté d'un miler ou d'une fille comme Agathe ouais, sur un cross, tu dois pas faire le malin non plus, hein, Yodieu, hein, surtout sur des formats comme ça.
Surtout si t'es encore avec elle dans la dernière ligne droite,
ouais, tu te dis bon, ouais,
j'espère qu'elle est un peu usée parce que sinon,
ouais, c'est ça. Quelle est ta séance d'entraînement préférée?
Ma séance préférée, oh, je dirais les VMA courtes. 12 x 300 avec récup 40 secondes.
Ça, c'est rare, Yodieu, hein. Dans ceux qu'on reçoit, ça
n'arrive jamais. Oui, non, c'est plutôt rare, mais bon, ça m'étonne pas.
Hein. Quelle vitesse, quelle est.
Sur. Là, j'ai fait 10 x 300 avant Liévin, j'avais fait autour de 50 secondes.
Ouais.
Donc,
solide. Très solide. Voilà.
Je pense que je peux passer sous les 50 secondes sur ces séances-là. Mais
ah ouais, bravo.
C'est pas pour tout de suite.
Est-ce qu'il y a une séance que tu détestes?
Que je déteste, non, mais que je suis moins à l'aise, c'est les côtes longues type 400, où souvent je cours contre Léna Candissounon qui est redoutable et je prends des raclées monumentales.
Ah ouais, qui est ta grande amie, hein, qui t'a soutenue à Glasgow. Bah, pourtant, elle fait du 800, mais elle a plus de qualité là-dessus.
Bah, elle vient du sprint, donc forcément,
Le pied.
Du pied et un rapport poids-puissance excellent dans les côtes. Je ne peux rien faire, je crois que je suis à 100-0 dans des côtes. Mais on tient quand même le compteur.
Bon, magnifique. Merci Agathe d'être avec nous, on est ravis de t'accueillir, on l'a dit, donc finaliste des mondiaux de Glasgow. Cette finale 4:04.64, c'est ton chrono référence.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Raconte-nous cette finale où tu termines 7e, donc on l'a dit, il y avait des cadors qui étaient présentes, c'était pour toi une occasion de te jauger. Comment tu l'as vécu, tout simplement, ces victoires de l'Éthiopienne, d'ailleurs, Freweni Eliou, qui s'impose. Raconte-nous, comment ça s'est passé?
Je m'attendais à ce que ce soit une course rapide,
ouais.
Parce que généralement, les Éthiopiennes, surtout quand elles sont... Bah, là, elles étaient trois. Elles mettent des trains rapides pour essayer de décrémer la concurrence. Mais c'est ce que je pensais qu'elles allaient faire dès le premier 100 mètres. Elles sont parties super fortes, toutes les trois. Mmh. Donc, je me suis dit, très bien... ça va être une course rapide.
Mais... Ton idée, c'est quoi? C'est de les suivre ou d'aller à ton rythme et de rattraper du temps après?
Il faut être quand même assez prudente, je pense, sur on s'était dit, sur le premier 400 mètres de la course pour pas non plus toutes les cartouches, parce qu'il faut quand même en garder pour finir fort et finalement aller chercher des filles. Et là, le but du jeu, c'est d'être la mieux placée possible. On s'en fiche un peu du chrono, mais donc il faut garder quand même un peu cette lucidité-là et pas non plus partir... dans l'inconnu le plus total, mais on peut quand même se laisser aller et ne pas trop regarder les chronos. Je pense que c'est faut garder un équilibre entre la fougue et un peu de réserve pour finalement finir ce 1500 mètres, quoi.
Bah oui, c'est ça. L'important, c'est quand même d'aller franchir la ligne d'arrivée, c'est pas de se cramer dès le début. Tu avais un objectif de place, tu as abordé cette finale sans objectif précis, tu t'es dit je veux pas subir ma course, c'était quoi le plan?
L'objectif, c'était d'être actrice de la course et d'avoir aucun regret à l'arrivée. En objectif de place, on va dire que je voulais vraiment finir dans ce top 8 parce que j'arrivais avec le 7e chrono des filles. Au final, il y a des filles qui ont battu leur record en série, donc je ne sais pas combien j'étais, mais en tout cas, je savais que je pouvais aller approcher ce top 8 et ça aurait été une finale ratée si j'étais arrivée au-delà de la 8e place. Et mais surtout, ouais, c'était de l'aborder de la meilleure des manières et être satisfaite à la fin sans avoir de regrets d'avoir réussi à faire ce que je sais faire. Et aujourd'hui ouais, je suis pleinement satisfaite de ce que j'ai fait. On va dire que j'ai joué ce que je savais jouer.
Ouais.
Et en essayant de rester en calme dans une course pleine de tensions. Et donc ça, je suis très satisfaite de ça. J'aurais peut-être pu avoir un peu plus de fougue à un moment donné et tenter quelque chose, parce que finalement, le podium n'est pas si loin. Mais bon, voilà, c'était ma première finale mondiale. Je suis à ma place, c'est super. Et puis, on tentera plus de choses sur mes prochaines finales.
Ouais, c'est sûr, c'était une sorte d'apprentissage. C'est un moment particulier dans une carrière d'athlète de haut niveau, Johan. Tu as connu ça toi aussi. Tu en as fait du 1500, tu as fait du 5000 aussi. Les premières grandes finales, les grands dossards et le public et la pression, c'est des moments dont elle se souviendra toute sa vie, Agathe.
Ouais, et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle apprend vite. C'est-à-dire que Agathe, elle a quand même un profil particulier parce qu'elle n'est pas passée par les catégories jeunes dans les grands championnats sur cette distance-là, tu vois. Mmh. Apprendre à courir le 1500 mètres, ça, enfin, c'est instinctif, mais ça peut s'apprendre, tu vois. Si tu fais une finale des championnats d'Europe junior, après tu fais la finale des championnats du monde junior, puis après les championnats d'Europe espoir,
ouais.
Et puis après quand tu arrives en senior, tu es déjà rodé à l'épreuve, à comment ça se court, parce que généralement le 1500, c'est souvent ça, c'est souvent du vite lent vite, ça part vite, ça ralentit, ça se replace, ça met des à-coups, ça bouscule, et ça tu l'apprends quand même dans les grands championnats. Et Agathe, elle vient pas de ce profil-là, et donc elle a pas connu ça. Et pour sa première grande finale mondiale, moi je trouve qu'elle a bien géré, elle a quand même un sens tactique qui est intéressant, elle a toujours un bon placement. Donc c'est ça qui me bluffe, c'est d'avoir ce sens tactique et d'avoir appris assez vite, alors que c'est quelque chose qu'elle n'a pas pratiqué dans les catégories jeunes il y a quelques années, ce qui est d'autant plus fort pour moi. Ouais.
Parce que c'est vraiment, moi je me souviens, on avait reçu notamment Asdin Abs qui nous avait expliqué comme ça comment une finale mondiale se joue, et ça se joue à un quart de seconde. En fait, c'est une demi-décision que tu vas prendre et qui va influer sur toute la fin de ta course. C'est de l'instinct, c'est du travail. Comment tu vois ça toi, Agathe?
Ouais,
c'est sentir les choses et comment ça se passe?
Ouais, c'est bien sentir la course et être en confiance aussi de ce qu'on est capable de faire. Et ouais, c'est des prises de décision au final. Ouais, c'est ça, une demi-seconde et même pas un quart de seconde. Et il faut être bien placé au bon moment et puis ne pas avoir peur d'y aller. Et quand on y va pleinement. Et parce que si on fait les choses à moitié, ça fonctionnera pas. Là, on est dans le très haut niveau mondial. Donc il faut y aller vraiment à 100, 110% et puis y croire, quoi.
Ton plan, en revanche, pour la série, c'était ça? C'était de dominer ta série, d'aller chercher la victoire? Ou d'aller chercher un chrono? Comment tu l'as envisagé, cette série?
Je l'ai
tu l'as remporté, hein, c'est pour ça que je dis ça.
Je l'ai couru de telle sorte à la remporter. En fait, la qualification, c'était les trois premières. Il n'y avait que des qualifs à la place. Maintenant, c'est ça sur le 1500. Et donc, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Sur le papier, j'étais la troisième meilleure perf de la série. Mais en visant la troisième place, au final, on peut échouer.
Oui, oui. C'est pas un bon plan, ça.
Alors que si tu vises, tu vises la gagne, au final, même si tu fais une petite erreur, tu peux te retrouver deuxième et troisième et t'es qualifié. Donc, ça a été ça, ma stratégie. Et puis, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, à refaire cet été.
Ouais, voilà, ça, c'est un bon enseignement pour les Jeux de Paris. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est pareil, comment tu gères l'enchaînement? Parce que nous, ça nous paraît fou, des efforts aussi durs et d'enchaîner comme ça série et finale. L'entre-deux, en fait. Est-ce que tu finis rincé de ta série? Est-ce que tu es dans l'euphorie et physiquement, finalement, ça laisse pas trop de traces? Comment ça se passe, l'entre-deux, alors?
Du coup, c'était quelque chose que je connaissais pas.
Ouais.
J'avais, vu que l'été dernier, j'étais sortie de la série. Donc, ouais. Mais en tout cas, là, comment je l'ai géré? Direct après la série... on passe très vite à la récup avec tout le staff médical de la Fédé qui sont là pour nous.
Mmh.
Et on nous laisse quand même un peu profiter. J'avais quand même, c'était ma première fois que je passais un tour dans un grand championnat. Donc j'avais quand même envie de passer du temps à appeler mes proches et justement peut-être pour plus facilement passer à autre chose et dire ok, j'y ai profité. Donc ça a été la soirée du vendredi, et après le samedi, l'objectif c'est complètement de déconnecter de ce championnat. Bon, après on peut quand même, enfin j'ai regardé quand même un peu les courses.
Tu vas à la salle voir les autres quand même?
Non, je vais pas à la salle, mais j'étais dans l'hôtel. Il y avait aussi les kinés qui ont une salle où
tu cours un peu entre deux le samedi?
Ouais, j'ai couru, j'ai fait le matin, j'ai fait un peu de SV1, un peu de SV2 pour les connaisseurs.
Ouais. C'est quoi pour toi le SV1, SV2?
Moi, je le fais avec mon rythme cardiaque, mais...
Ah, Yodu, ça me plaît. On court au rythme cardiaque, ça j'adore. Bravo. Bravo,
voilà. C'est une copine à toi.
Ah ouais.
Mais du coup, ça correspond à des SV1, ça correspond à un tour de, on va dire, entre 4-0 et 4-10 en fonction de...
Ah, là, on n'y est pas. Pardon.
Et SV2 entre 3-25 et 3-35.
Oh oui, bah ça va. Hein, du coup. Ok, juste un mot global d'ailleurs sur ces mondiaux de Glasgow, ces mondiaux en salle. Il y avait un tout petit contingent français, 13 athlètes, on termine 18e, on finit avec 2 podiums. Les haies sont là, c'est vraiment un sport de référence, une discipline de référence pour nous Français. Jusqu'au Oumaté qui nous a régalé en bronze samedi soir, c'était vraiment fantastique. Et puis évidemment, Samba Mayela qui était là aussi, elle qui a fait deuxième, elle était championne du monde en titre et elle termine deuxième derrière une fille qui bat le record du monde en salle. Donc une magnifique course pour elle aussi. Bah, quelle était l'ambiance entre vous? Parce qu'il y a eu cette image terrible, on pense à elle d'ailleurs, Margot Chevrier, on espère qu'elle sera aux Jeux de Paris en 2024, mais une blessure à la cheville. Il y a Benjamin Robert qui avait de meilleures volontés et qui termine disqualifié de la finale du 800. Il y a eu quelques petites déceptions, il y a des Français qui étaient à leur niveau. Comment était l'ambiance dans votre équipe alors?
C'était franchement une super petite équipe de France.
Ouais. Après, 13, ça va, ouais, vous étiez entre vous, quoi.
Entre nous, ouais. En famille.
Ouais.
Repas de famille. Et non, il y avait une bonne ambiance, on s'encourageait tous. Et moi, je trouve que quand même, globalement, on a été tous présents à notre niveau. L'équipe de France était petite et au final, il y a quand même beaucoup de finalistes avec deux médailles. Sirena qui arrive à refaire une médaille mondiale, c'est
Sirena,
super solide.
Magnifique course. Hein.
Ouais. Juste, je pense qu'il espérait peut-être un autre métal, mais c'est quand même sa première médaille mondiale. Donc,
il y a des stars devant. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc voilà, après, bah, Benjamin, je pense qu'aussi, lui, il espérait, bah, comme il dit toujours, quand il s'aligne à une course, c'est pour gagner. Donc, il a tout tenté pour ça. Aujourd'hui, c'était aussi sa première finale mondiale, finalement.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, mais il est très bon en meeting. Il n'avait pas encore réussi à concrétiser en grand championnat. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites. Il y a encore du boulot pour l'équipe de France pour faire plus de médailles, mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie, en tout cas.
Ouais, juste qu'il avait terminé derrière Grant Holloway, hein, la star de cette discipline. Et Benjamin Robert, je ne sais pas si tu as vu, c'est une distance que tu aimes bien, donc je pense que oui, Yodu, mais... quelle horreur, ce 800 en salle,
ah,
avec les coups de coude dans tous les sens, un Espagnol que tu as envie de pousser par terre. Ah, quelle horreur, là ça joue autant avec les bras qu'avec les jambes, là, c'est fou.
Ça joue avec les nerfs, c'est ça, il ne faut pas dégoupiller, il faut rester dans sa course, il faut réussir à se placer, il faut réussir à trouver la porte qui s'ouvre, il ne faut pas passer à l'extérieur dans le virage. Il y a tellement de paramètres que dans cette course-là, effectivement, bah, c'est, pour nous, spectateurs, c'est sympa à voir. Mais en tant que coureur, bah, c'est un peu la loterie. Hein. Le favori, ce n'est pas forcément celui qui va s'imposer tellement il y a de paramètres qui entrent en compte. Mais malheureusement, ouais, Benjamin a mis le pied à l'intérieur. Alors un jour, il faudra parce qu'il y a des fois, enfin, il ne le fait pas pour couper, t'es bousculé.
Ah bah non, il ne fait pas ça pour gagner du temps,
reviens,
oui, ça c'est sûr.
Il n'y a aucune volonté de couper. Et cette règle, elle est quand même assez difficile parce que tu poses le pied, pam, disqualifié. Donc c'est peut-être cette règle est difficilement acceptable, mais après, c'est comme ça, il faut faire avec.
On a eu quelques grands moments, hein, on l'a dit, donc le record du monde du 60 mètres haies chez les dames, donc Devin Charlton devant Sirena Samba Mayela. Femke Bol, quel phénomène aussi.
Ah ouais, elle est
toi,
forte.
Toi, t'as dû voir ça en vrai, mais quelle une aisance, une facilité, et encore un record qui tombe pour elle. Elle gagne le 400 mètres en 49-17. Armand Duplantis qui s'est fait peur, hein, c'était le même soir que toi à la perche, mais finalement il a décroché le titre de champion du monde. Et puis on a vu quand même, on va se le dire, Noah Lyles qui s'est complètement foiré au 400. On a voulu le tester au 4x400, là ça c'est pas une réussite, Johan, je sais pas si t'as vu ça aussi, mais il a souffert sur 400. Hein. Lui qui est champion du monde du 200 et du 100, on le rappelle.
Il a déjà fait moins de 44 quand même sur
C'est ce qui est très solide, mais
oui.
Vu son talent sur 100 et 200, là on s'est dit
ça va
être long.
Il faut se tester des fois.
Et ouais. Enfin, on on a senti que c'était, on voyait un coureur,
c'était long,
comme les coureurs amateurs dans la dernière ligne droite là. Voilà, c'était, il était temps que ça se termine, tu vois.
Ah ouais. Là, il y a pas, c'est pas Funkeball hein, qui est, enfin Funkeball, t'as l'impression qu'il a fait un, bah justement un 1500 mètres quand les autres courent un 200 mètres qui sont crispés.
Ah c'est fou.
Elle a un relâchement
une aisance,
une aisance
hallucinante. Et, du talent pur quoi.
Ah ouais. Ouais.
Puis surtout, elle a enchaîné.
Ah ouais, en plus, bien sûr.
5-400.
Ouais.
C'est
ouais,
ça bah, ouais. En 3 jours.
Ouais.
Intensité quand même très élevée.
Ah oui, c'est pas intensité modérée. Là,
ah, elle fait quand même un record du monde le samedi soir à presque 22h. Ouais. Le lendemain à 10h, elle court les séries du 4x4.
Les séries. Et le soir, elle est dernière relayeuse du 400. Elle se met devant, mais elle est vraiment les doigts dans le nez. Tu vois les autres commencent à revenir. Et puis bam, l'accélération dans le dernier 100 mètres pour aller chercher ce titre. Impressionnante. Hein. On cherche des stars au niveau de l'athlétisme mondial. Là, on en a une.
Elle en fait partie. Ouais.
Là, c'est sûr qu'on a une craque. On revient à ton histoire, Agathe, parce que toi, ça fait un moment que tu commences à perfer. T'es l'étoile montante parce que déjà, t'es championne de France en titre du 1500. Tu l'as décroché l'été dernier. Belle course d'ailleurs et belle tactique parce que là aussi, tu le décroches au sprint. Donc là, déjà de l'intelligence de course. Mais on l'a dit avec Johan, tu viens des épreuves combinées au départ. T'aimais bien lancer des trucs. <C'est
ça. rire> Lancer des menhirs en Bretagne.
Ouais, c'est ça le truc.
Ouais, du coup, bah, en fait, j'ai fait du cross et de la perche vraiment dans les années très, on va dire, avant cadette. Après, je suis rentrée au pôle espoir de Cesson-Sévigné. J'avais le choix entre le demi-fond et le pôle de combiné. Et
le
demi-fond me faisait super peur.
Ah,
en fait, j'avais fait un stage avant.
J'avais pas envie de souffrir. Quoi.
Horrible l'ambiance. Okay. J'ai dit, maintenant, je vais aller dans les épreuves combinées. Ils ont l'air de s'éclater. Si je dois faire ça tous les jours, autant que je m'amuse. Quoi. Et donc, voilà, je suis partie dans l'aventure des épreuves combinées. C'était vraiment incroyable. J'ai appris plein de choses. Franchement, c'est une super famille. Et au final, j'ai quand même réussi à faire. J'ai fait le championnat du monde junior sur l'EPTA. J'ai fait une sélection aussi en A, chemin d'Europe par équipe sur le Ptathlon.
Pourquoi t'as bifurqué ensuite alors?
Parce que j'en avais un peu marre des épreuves techniques, notamment les lancers où j'ai pas vraiment de talent, j'en ai même pas du tout. Donc à un moment donné, on est très très limité, surtout sur le javelot, j'arrive toujours pas à comprendre l'épreuve. Et j'ai d'abord tenté une saison sur 400 mètres haies.
Ouais.
Ça c'était au moment du confinement.
Quelle horreur ça aussi.
Je pensais que c'était la discipline qui m'allait le mieux avec ce que j'ai fait dans les épreuves combinées et quand même mon aisance sur le demi-fond. Même quand j'étais dans les épreuves combinées, j'ai fait 2,08 au 800 en junior. Ouais. Ça restait dans les meilleurs.
C'est là où tu allais chercher les grosses perfs. Ouais.
Ouais, c'était ça. C'était quand même dans les meilleures françaises du demi-fond alors que je faisais des épreuves combinées.
Et ouais.
Du coup, je me suis dit, ouais, le 400 S, ça va le faire. Mm. Mais en fait, pas du tout. J'ai pas la bonne foulée.
Et puis, c'est trop de calcul aussi. Le 400 S, c'est tellement technique aussi. C'est différent.
Ça, ouais. Faut vraiment avoir.
Il y a moins d'instinct, quoi.
Ouais, non, c'est pas trop instinct. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas dans mon instinct naturel, on va dire.
Mm.
Et c'est en préparant le 400 mètres où je me suis un peu blessée. J'ai eu une impulsion et bref, j'ai eu une fracture de fatigue au pied.
Ouais.
Dans la prépa, j'ai fait que du foncier et à la fin de ma convalescence, entre guillemets, j'étais capable que de faire un 1500 mètres que j'ai couru. Je fais 4 minutes 23, je crois, à mon premier 1500 en salle et puis après, j'y reste quoi, demi-fond parce que en fait, c'est fun quand même.
Ah oui, voilà, exactement. Je vais demander au spécialiste, Yodu, est-ce que le 1500, c'est la distance taillée pour Agathe ou est-ce que tu la vois monter à l'avenir? Elle est encore jeune. Est-ce qu'elle peut monter, je ne sais pas, sur 3000, sur 5000, sur 10000?
Sur steeple.
Sur steeple. Sur steeple, oui, ça
t'en si elle a fait des haies.
Ouais,
si
ça te rappellera le 400 mètres haies. Ouais. Voilà. Après, il faudra aimer avoir les pieds mouillés. Quoi.
Voilà. Est-ce que tu étais bonne techniquement pour passer des haies? C'est la question. Ça. Non, je ne sais pas. Après, moi, je suis pas son. Je la vois pas dans le quotidien. Je ne suis pas son entraîneur. Mais déjà, je pense que là, elle a trouvé quand même la distance et l'entraînement qui lui correspond. Après voilà, c'est à elle de c'est quand même un grand gabarit, c'est quand même une fille relativement grande, donc c'est sûr que je la vois pas passer sur 5000 ou sur 10000, mais par contre sur 800, 1500, effectivement je pense que elle a quand même plus le profil d'une mileuse avec une puissance, une force, une explosivité que certaines n'ont pas, donc c'est quand même un atout. Ouais.
Est-ce que tu es surprise toi-même de ta progression très rapide, là, comme ça, en quelques mois, ou est-ce que c'est la suite logique de l'entraînement? Est-ce que, vu ce que tu faisais à l'entraînement, tu savais que ça allait tomber, tout ça, les records perso les uns après les autres, et puis aller chercher les records nationaux?
Bah, du coup, on va dire que la grosse progression, ça a été l'été dernier, quand je passe de 4-9, 4-10 à faire 4-0-5 fin mai à Anguelo. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai accepté ce, on va dire, ce niveau. Et maintenant, pour moi, c'est, on va dire que c'est mon niveau de base. Et, en fait, j'y pense pas. Je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop et essaie pas trop de mettre de limites parce que, en fait, on sait pas.
Non, bien sûr.
Mais en tout cas, ce que je fais à l'entraînement, c'est. Ça pouvait me laisser présager ce genre de chrono. Donc, c'est pas non plus surprenant, je suis pas surprise, mais je suis très contente de réussir à m'exprimer pleinement dans les courses et réussir à faire des chronos. Parce que. Il y a quand même une grande différence entre être bon à l'entraînement et être bon
à
courir.
Ça sera le thème de notre séance d'ailleurs.
Non, c'est pas surprenant, mais voilà, c'est, on va dire que je peux encore progresser et je suis pas encore 100% satisfaite de ce que je fais.
Voilà, donc au moins il y a une marge de progression toujours, et ça nous intéresse. On a eu une petite crainte pour toi et tu as dû la voir aussi, c'est que c'est peut-être l'évolution logique vu la difficulté de l'entraînement et des allures pratiquées, c'est l'enchaînement des petits pépins. Tu as eu notamment le syndrome de l'essuie-glace, nous on y avait consacré un épisode parce que c'est plutôt un truc de fondeur d'ailleurs, des gens qui font de la longue distance. Ça t'a handicapé un petit moment, tout ça s'est réglé, c'est derrière toi ?
Ouais, tout ça s'est réglé. Franchement, je suis quelqu'un qui se blesse pas trop. J'ai eu une fracture de fatigue il y a maintenant plus de 2 ans.
Ouais.
Et le syndrome de l'essuie-glace l'été dernier. Mais en fait, j'ai réussi à quand même battre mon record avec ce syndrome en adaptant mon entraînement, en faisant beaucoup, beaucoup de vélo et en m'investissant autant dans le vélo comme si je le faisais à pied, on va dire. Et en fait, ça nous a juste permis de découvrir autre chose avec, avec mon coach. Et
Marc Rezé,
exactement. Et finalement, on a appris beaucoup de choses grâce au syndrome de l'essuie-glace. Et on n'a plus trop peur de la blessure parce qu'on sait qu'en fait, on perd pas de temps à faire du vélo.
Ouais.
Si on...
Ah, tu peux en parler avec Johan. Johan, ça fait 3 ans qu'il est cycliste de haut niveau.
ne parle pas de ça. Quoi.
Mais en tout cas, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi et je peux faire des allures lentes. Donc, c'est le principal.
Est-ce que l'aspect tactique du 1500, ça se bosse à l'entraînement ? Je l'avais posé la même question à Gabriel Tual qui était venu et qui nous a dit oui, parfois sur certaines séances, on se dit on part vite, on s'arrête, on repart, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles toi aussi ?
Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de bosser, oui. Après, c'est pas forcément évident parce que on n'a pas le. Enfin, j'ai pas un peloton avec moi à l'entraînement.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est toute seule, quoi. Ouais.
Après, j'ai quand même pas mal de garçons à l'entraînement qui peuvent le faire, mais. Je pense que moi, je le bosse le plus souvent du coup en compète. Je suis quelqu'un qui va beaucoup courir quand même. Je fais des saisons où il y a beaucoup de courses, beaucoup de meetings, parce que au final, je pense que c'est...
C'est là que tu apprends.
C'est exactement là. C'est là que tu apprends et j'ai beaucoup à apprendre parce que on disait au début, j'ai pas fait toutes les années jeunes dans le demi-fond. Mmh. Donc j'ai plein de choses à apprendre et j'ai pas peur de sortir en compétition et en plus j'adore ça, donc c'est là-dedans que j'apprends quoi.
Alors si vous êtes en voiture, mettez le clignotant, si vous courez, arrêtez-vous, parce qu'Agathe va nous expliquer comment on se qualifie pour les Jeux Olympiques, quand on est à sa place et qu'on veut aller disputer les Jeux. Elle va nous faire la distinction entre le ranking et le chrono, les minima.
Sortez la calculette, voilà. Le bloc-notes.
Je vous préviens, préparez-vous, on nous écoute beaucoup en voiture, mais là vraiment arrêtez-vous. Là, on va essayer de comprendre. Agathe, est-ce que tu peux nous faire le point sur ta qualif olympique? Déjà, tu n'es pas qualifiée, on le précise.
Non.
Comment tu vas faire pour te qualifier pour Paris alors ?
Alors, il y a 2 méthodes de qualification, comme tu te disais, le minima ou le ranking. Mmh. Le plus simple à comprendre, c'est le minima. Il faut que je cours 4 minutes 02.50.
Ok.
Donc ça, c'est, on va dire, le plus simple.
4-0-2-50, ton record en plein air, c'est ?
4-0-3-26, donc 76 centièmes.
Ok.
Donc, pas grand-chose.
Bon, c'est faisable.
Ah oui, là, vraiment. Et on va dire que, comme pour la série des mondes, j'espère faire mieux que ça.
Voilà. Tu veux faire les minima et bien mieux, quoi.
Ouais, voilà, moins de 4 minutes, j'aimerais. Ouais. Et donc ça, si on est... entre guillemets moins de 3 françaises à les faire, je suis directement qualifiée pour les jeux. Si on est 4 françaises à les faire, ça se jouera au championnat de France élite.
Ah,
on prendra les 3 meilleurs. Et sinon, la deuxième méthode qui est bien plus complexe, donc le ranking mondial, qui est un classement sur nos 5 meilleures perfs sur un an glissant.
Ouais.
C'est notre performance nous donne un nombre de points auxquels on additionne des points bonus en fonction de là où on court, contre qui on court. Et voilà, il faut faire une moyenne. Et aujourd'hui, il faut des rankings autour de 1250 points à peu près. Et ça correspond à
Je vous avais dit de vous arrêter. Hein.
Ça correspond à peu près des gens qui courent les minima. Donc au final,
ouais, d'accord. Le plus simple, c'est les minima. Voilà. Et ça te fait rire, toi, Johan ? Non, mais ça aussi, on en a déjà parlé. Au moment de l'IE20, du débriefing, on l'avait dit, parce que chaque meeting ne rapporte pas le même nombre de points.
Non,
donc, c'est Yodu qui l'avait dit, tu peux claquer une grosse perf quelque part, mais qui rapporte beaucoup moins de points qu'ailleurs.
Ouais, c'est ça, il faut courir, faut être assez intelligent dans son choix de meeting. Ouais. Ils ont classé Gold, Silver, Bronze, ouais, et Diamond League au-dessus de tout ça. Et puis en fonction de
là où. Des bons agents, en fait.
Non, mais c'est vrai, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus trop cette équité. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas réussi à rentrer dans une course ou d'autres qui ont réussi à rentrer. Enfin, c'est. Il faut avoir des bons agents et puis il faut être bon en début de saison pour s'ouvrir les portes aussi des grosses courses. Donc voilà. C'est simple.
C'est sûr que c'est toujours compliqué, Johan. Juste un mot, Agathe, la densité française. Parce que est-ce qu'à ce jour, il y a une Française qui a fait les minima? Non, pas encore.
Non, il n'y a pas de personne à faire. Aujourd'hui, c'est moi la meilleure Française, voilà, sur le papier. Et puis, mais on a quand même une belle génération avec pas mal de filles sous les 4-10, avec notamment Bérénice Clé-Emerle qui a fait aussi moins de 4-0-4 l'été dernier.
Ouais.
Il y a Aurore Fleury qui a déjà fait aussi moins de 4-0-4 qui, je l'espère, va réussir à sortir de toutes ses blessures pour revenir à son meilleur niveau. Mais non, on est quand même, je pense, dans une belle génération et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de figures féminines sur le 1500. Moi, je me rappelle pas d'exemple à la télé. Quand je regardais la télé, je voyais pas de filles sur le 1500. Il y avait sur le 8.
Il y a Indeiba qui avait été le record précédent, oui, en salle et en plein air. Ouais.
Mais c'était un peu une épreuve délaissée chez les Françaises, je pense.
Le plan pour toi, la suite de la saison, c'est simple, c'est décrocher les minimales le plus vite possible. Se concentrer ensuite sur le championnat d'Europe qui arrive vite à Rome le week-end du 8-9 juin, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Ouais. Et après, te projeter sur les Jeux.
Ouais. Ouais. Le but, ouais, c'est de sortir assez tôt, début mai, et faire les minima pour être sereine dans la suite de la saison. Et puis, il y a quand même les championnats d'Europe où je pense que je peux aller chercher quand même une médaille.
Ouais.
Là, cet hiver, je fais 3e européenne de la course il y a 2 jours. Et Il faut aborder les championnats d'Europe comme un vrai objectif aussi. Et après, il y a le temps, et encore pour se repréparer, refaire un cycle d'entraînement pour être très performante pour les Jeux.
C'est l'avantage de cette distance, Johan, c'est que tu as le temps de récupérer quand même. Tu peux enchaîner les courses comme Agathe va le faire.
Ah, par contre, ouais, l'avantage du 1500 à l'inverse du 5000 ou du steep, qui sont des épreuves beaucoup plus traumatisantes, c'est que le 1500, ouais, c'est un peu comme le 800, tu peux pas en faire tous les 2 jours, mais presque, tu vois, tu peux te servir de ça comme de séance d'entraînement, comme elle l'a très bien dit, très bien expliqué, c'est qu'elle a besoin de courir, elle a besoin de faire monter la forme via des courses pour en plus travailler d'un point de vue technique, d'un point de vue préparation, d'un point de vue placement, tactique et tout ça. Et donc c'est vrai que tu peux enchaîner les meetings, tu peux enchaîner les courses et t'es pas à l'abri qu'un jour sur une course que t'avais pas forcément prévu, les minima tombent et dans ce cas-là tu t'enlèves quand même une belle épine du pied. Parce que c'est vrai que le ranking, il y aura 45 places chez les filles, mais c'est pas évident. Donc effectivement, plus vite elle va faire les minima et après plus vite elle sera délestée de ça pour se concentrer sur les championnats d'Europe. Parce qu'effectivement, elle a quand même une belle carte à jouer parce que en termes de prise de confiance, en termes de tout ce qu'une médaille au championnat d'Europe peut rapporter, ça peut être un bel objectif intermédiaire avant les Jeux. Ouais.
Ouais. Donc voilà, le chemin est tout tracé, Agathe. Il n'y a plus qu'à.
Faut qu'elle court.
Voilà. Ouais. Du coup, le cross là, qui arrive samedi, c'est le jour de la sortie de l'épisode.
Il ne faut pas qu'elle se blesse.
Là, tu vas vraiment en mode. Tu vas faire ça en mode compète parce que tu adores ça, mais tu gardes un peu de réserve. Comment tu vas courir ça?
Ah non, il y aura zéro réserve.
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Elle prévient ses adversaires.
Voilà, bien,
merci.
Voilà.
Ah non, je serais écroulée sur la ligne d'arrivée.
Ouais, c'est ça.
Non, et puis oui, c'est sûr, faut pas se blesser, mais en tout cas,
Faut pas avoir cette pensée
non,
dans la tête.
Pas non, pas du tout. Franchement, le cross c'est hyper fun et ça remet bien à sa place aussi. Donc. Ouais.
Et juste que vous ayez une idée, hein, si vous suivez l'athlète et que vous êtes des passionnés, vous donnez le nom d'ailleurs de celles qui ont fait podium à Tokyo lors des derniers Jeux sur la distance d'Agathe. Fesky Piegon, qui est la comète kenyane, hein, quand même.
Ah, par contre, ouais, au niveau,
là, ça court. Là, ça court. Une certaine Sifan Hassan qui a fait un podium aussi. Laura Muir, la Britannique, qui était là aussi.
Bon courage pour faire une
médaille
à Paris.
Voilà, pour vous dire le taf herculéen qui attend Agathe pour les Jeux de Paris, c'est sûr, mais la densité est là, et en gros, le record du monde, il tourne autour de 3,49, je crois. C'est 3,49,11, voilà, pour Kipyegon qui avait établi ça.
Même plus.
Bon, il y a une marge qui est forte. Après, les courses de championnat, on ne sait jamais, mais déjà, aller à Paris, aller en finale, ça serait un truc complètement dingue.
Ouais, c'est ça l'objectif, c'est en finale.
T'as le temps encore de te projeter sur la suite et de progresser sur la distance.
Ouais, exactement. Ça me fait pas peur, et puis ouais, c'est ça, j'ai le temps, 24 ans.
Voilà, bien sûr.
Face Kipyegon, elle est un peu plus âgée, elle a plus de 30 ans. Donc,
c'est une vieille, t'as raison.
Elle a eu le temps d'apprendre.
Elle est finie.
Attendez, j'arrive.
Exactement. Non, mais écoute, nous on est à fond avec toi, on espère que ça va le faire. Merci. Et tu restes avec nous parce que tu vas nous donner des conseils pour la séance.
RMC, la séance.
Maître Yodu, c'est un aspect essentiel pour la réussite d'un objectif. Comment on se présente sereinement sur une ligne de départ? Comment on fait le plein de confiance en soi avant de s'élancer, plein de pensées positives? Est-ce qu'il y a des clés comme ça pour passer en mode positif? Ah, déjà, la base de base, c'est d'arriver prêt. Hein. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Là, c'est une question de physique avant la question de mental. Mais est-ce que tu as des clés à nous donner comme ça, Yodu, pour arriver à se présenter sereinement?
Il y avait une phrase Arthur H. qui disait « Une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. » Et c'est vrai que plus tu t'entraînes, plus tu es fort, plus tu es en confiance. Tu vois, quand tu sais que quand tu arrives sur la ligne de départ le matin de la course et que tu regardes ce que tu as fait et que tu te dis « Bon, ben voilà, j'ai bien fait les choses, j'ai bien bossé, je me sens fort », déjà, tu arrives avec un capital confiance qui est quand même un petit peu meilleur que si tu sais que « Putain, je suis sorti 3 fois cette semaine, j'ai fait sauter la séance de seuil, je suis pas saignant. »
C'est sûr.
Tu vois ? Donc déjà, rien que l'entraînement doit vous permettre d'avoir une certaine confiance en soi. Mais à contrario, la faible estime de soi, le manque de confiance en soi va peut-être te pousser vers le surentraînement où tu vas te dire « Il faut toujours que je me rassure. » Vas-y, j'en fais pas assez, je rajoute une séance. Vas-y, je rajoute une série. Vas-y, je rajoute ça. Et ça t'amène vers le surentraînement. Et ça, c'est lié aussi à un problème de confiance en soi qui fait que, justement, tu vois, il y a un équilibre à trouver entre bien s'entraîner, bien faire les choses pour performer et le fait d'en faire trop pour te rassurer. Tu vois, typiquement, avant le marathon de Valence, quand tu m'as rajouté 5 km, je l'ai encore en travers de la gorge, 10 jours avant le marathon, parce que tu n'avais pas confiance en toi. Tu vois ?
Je prends un tir comme ça, moi.
Et ça, crac, je ne l'ai pas oublié.
Ouais, c'est vrai. Tu l'as encore en travers de la gorge. C'est bon,
non, mais pour. Voilà, ça. Mais après, pour parler sérieusement, il y a aussi des blocages. Il y a aussi des blocages mentaux qui ne sont pas forcément liés à ce que tu vas faire dans l'entraînement.
Ouais.
C'est plus dans la gestion de tes émotions, dans ta gestion du stress, dans ton potentiel que tu as à la naissance. Tu vois, on a tous un potentiel et il y en a qui ont besoin d'être aidés par des prépas mentaux, d'autres qui y arrivent très bien, qui ont le couteau entre les dents quoi qu'il arrive depuis la naissance. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux là-dessus et certains doivent passer via du travail avec un prépa spécifique pour justement enlever ces clés et trouver justement ce qui va vous faire performer. Ouais.
Mais ça a quand même une grosse incidence, je trouve, quelle que soit la distance sur laquelle on s'élance. Et d'ailleurs, vous ferez un petit test si vous faites du 10 km, du semi ou du marathon. Vous mettez dans un sas et vous ne dites rien, vous écoutez ce qui se dit autour de vous. Et lorsque les personnes se parlent entre elles, toujours c'est le ça va, non.
Non,
il y a
non.
Toujours un truc.
T'es prêt? Non.
Non, ça
personne
va pas.
Personne n'est prêt. Ouais.
Là, j'ai un peu mal là, bah, je le sens pas. Ouais. Mais si je fais ça, c'est pas grave. Et c'est quoi ton objectif? On verra aujourd'hui, tout ça. C'est vrai, hein,
c'est du mauvais stress.
Des blocages mentaux qu'on s'en fiche tous, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison quand la prépa s'est bien passée. Agathe, est-ce que tu as des clés? Parce que toi, c'est ta spécialité. Tu l'avais déclaré d'ailleurs entre ta série que tu remportes sur le 1500 et la finale que tu allais aborder. Tu as dit, moi, je fais ma finale, j'en ai rien à faire du reste. Est-ce que toi, c'est naturel? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est naturel aussi, c'est une personnalité. Ou est-ce que tu as quand même des trucs? Je sais pas, est-ce que tu fais un peu de visualisation? Est-ce que tu te fais des plans dans ta tête? Comment tu fonctionnes, toi, alors?
Je pense que naturellement,
déjà.
Je suis bien dotée par rapport à ça, on va dire. Mais comme disait Johan, c'est qu'en fait, moi, j'ai pleinement confiance dans tout ce que j'ai fait avant. Je sais que j'ai tout mis en place avant. Donc déjà, on a une grosse partie de doute qui s'enlève, en fait, quand tu sais que t'es prêt physiquement. Je trouve ça hyper simple de s'aligner sur une ligne, de dire, bah, de toute façon, j'ai tout fait pour être le meilleur aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à s'exprimer. Mais des fois, il y a le plus qu'à s'exprimer qui est un peu difficile.
Ah oui.
Mais déjà, moi, là-dessus, j'ai confiance dans mon entraînement et dans ce que je fais. Et je pense que c'est la première clé. Et après, avant les courses, on va dire que je suis pas suivie par un préparateur mental.
Ah, tu fais pas, ok.
Non, parce que pour l'instant, je reçois pas le besoin. Après, peut-être qu'un jour, j'aurai ces blocages où je serai sur la ligne de départ. Je me dirai, merde, j'ai pas envie de courir. Bah là, c'est compliqué d'aller performer. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas de suivi. Mais par contre, on a tous ses propres outils. Même si j'ai pas quelqu'un avec moi qui m'épaule, j'ai quand même mes petits trucs qui me rassurent.
T'as une routine?
Ouais, j'ai une routine, je sais, je mets mes petits réveils avec ce que j'ai à faire dans ma journée, je fais mon activation le matin, parce que souvent on court le soir en meeting, et ouais. Même pour la finale, donc...
la salle.
Je me fais ma petite activation le matin, je mets ma musique et je vais courir, ça me permet de sortir un peu, de réfléchir et me dire, moi, là je suis bien, j'ai hâte de courir. j'aime bien aussi avoir les derniers mots du coach, qui va lui aussi savoir quoi me dire pour me mettre en confiance. Et puis après, j'ai, on va dire, naturellement le couteau entre les dents. Et en tout cas, j'ai pas peur d'y aller. Et quand tu cours en n'ayant pas peur et en faisant tout ce que tu as envie de faire, on va dire, si tu n'as pas de regrets, c'est facile.
Ouais, voilà. Et puis, il faut accumuler les pensées positives, en fait.
Ouais.
Surtout pas se bloquer comme
non,
ça.
Non, moi, souvent, avant les courses, les gens, ils me demandent si... Enfin, ça va, tu te sens bien. Mais moi, dans tous les cas, je vais leur dire oui, même si j'ai mal partout, quoi.
Voilà. Ah ouais, je suis bien, là.
Ouais, je suis hyper prête. Parce que, en fait, si tu t'auto-persuades, t'as déjà fait une petite partie du chemin, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr.
C'est
Johan, toi aussi, t'as une routine, un truc particulier qui fonctionne avec toi en début de course?
Ouais, bah alors là, déjà, tout ce qu'il y a avant, à savoir, tu sais, rester dans sa bulle, rester concentré sur ton objectif, tu vois, ne pas dévier de ta trajectoire, de ton objectif les jours avant et avant la course, tu vois, vraiment rester focus sur son travail, savoir, moi, ce que j'aime bien faire, alors c'est parce que de regarder d'où je viens, tu vois, de me dire, voilà, j'avais une vision à long terme, aujourd'hui, je suis face à mon événement. Il y a 6 mois de ça, j'étais là. Il y a 4 ans, j'étais là. Où est-ce que je suis à la place où je voulais être. Je me suis dit, je sais pas, tu vois, je me remémore des moments galères parce que j'en ai eu quand même pas mal et je continue à bien creuser pour aller au fond, pour pouvoir remonter peut-être un jour. Mais effectivement, tu vois, ce côté détermination, avoir vraiment ton plan construit comme ça qui va me permettre de pouvoir perfer le jour J. Et puis après, c'est vrai que c'est propre à chacun parce que la gestion du stress et des émotions, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y en a qui, il suffit de regarder le regard des gens des fois et les gens, ils ont l'air perdus, tu vois, ils ont l'air stressés. Et si tu baisses les yeux dans une chambre d'appel face à tes adversaires et ils te regardent, tu baisses les yeux, t'es mort pour la course, tu vois. Et effectivement, donc il faut passer ce côté-là d'adrénaline, d'objectif et puis moi je sais que je me sers un peu de tout ce que j'ai mis en place avant pour me permettre d'être vraiment focus le jour J et d'avoir confiance en mes objectifs. Ouais.
L'important, c'est aussi de travailler à l'entraînement parce que tu vois, quand on avait reçu Gabriel Tuol, lui, il a toute une routine qu'il nous avait expliqué parfaitement. Tu vois, il sait exactement comment il va s'échauffer, terminer, quelle musique il va écouter.
T'as un schéma qui doit être mis en place.
Un schéma. Chacun est différent encore, Agathe. Il y en a qui préfèrent profiter de l'instant. D'ailleurs, tu le vois dans les chambres d'appel, notamment tes courses à toi, la façon de saluer la caméra.
Ouais,
t'as ceux qui sont tout tendus et déjà
concentrés,
puis les autres qui sont à bloc. Ouais, c'est sûr.
Avec le smile.
Est-ce que c'est un drôle de moment, ça aussi? La présentation, je sais pas, tu te dis ça y est, tout le monde me voit, tu penses à ta famille.
Ouais, c'est un drôle de moment. Après, non, je voulais rebondir sur ce qu'on disait avant. On a le droit de stresser et des fois, on se crisse parce qu'on se dit, mince, faut pas montrer aux autres que je suis stressé.
Ouais.
En fait, t'as le droit de stresser, il faut juste pas qu'il te paralyse.
Le bon stress, c'est de l'excitation.
Ouais, c'est okay.
T'es prêt à passer à l'action, t'as envie de faire mal, quoi.
Mais ouais, du coup, pour les présentations des athlètes, tu te demandes toujours, est-ce
que
je suis bien? Tu
ouais,
regardes
ça,
un petit
ouais.
check dans l'écran, tu dis, ok, c'est bon, je suis bien, je suis droit à l'aise. Mais non, c'est le moment où t'as une minute pour un peu sortir un peu de ta course,
ouais,
pour faire ta petite présentation. Bon, c'est toujours un peu fun. Moi, j'aime bien l'athlé fun. Donc.
Mais vous qui avez connu, enfin, qui commençait à connaître les grandes finales, toi, Yodut, on a connu aussi. Je sais pas, quand t'es avec un grand nom, est-ce que ça t'impressionne pas? Est-ce que quand tu le croises dans la chambre d'appel, est-ce que tu vois, t'as pas un moment où tu te dis.
Moi, en tout cas, non.
Il y a peut-être des mecs, toi, Yohan, que t'as admiré, avec qui t'as couru, tu vois. Je sais pas.
Bah, je m'en rappelle justement, la finale. Non, j'étais en série avec eux au championnat du monde en salle avec Bernard Lagat et Mo Farah. À l'époque, c'était les grands. C'était moi, c'était l'année 2012, c'est l'année où il est double champion olympique. Bernard Lagat venait d'être champion olympique du 1500 mètres. Tu vois, et effectivement, là, tu te dis, tu vois, je me disais, je suis dans le monde que j'ai rêvé quand j'étais petit.
Bah, c'est ça.
Et maintenant, il faut leur montrer que. Que je peux jouer avec eux, tu vois. Et effectivement, quand ça bousculait, je voulais montrer que j'étais là aussi, tu vois. Mais malheureusement, je m'étais fait éliminer en série. Mais j'en garde un super souvenir parce que, tu vois, je m'étais pas laissé faire, tu vois. S'il avait, à un moment donné, il veut passer à la corde, tu lui dis, non, tu passeras pas, tu vois. J'y suis, tu restes derrière.
Ouais, t'as pas subi malgré l'admiration que t'avais pour ces athlètes.
C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, ça t'aide à grandir quand même, ouais.
Je veux pas te mettre un coup de vieux, mais Agathe, elle avait 13 ans en 2012. Hein.
ça va, moi j'en avais 16.
Plus que ça, oh. Ouais, voilà, quelques années de plus. Bon, puis l'important, c'est de dédramatiser, tu nous l'as dit, surtout pour les sportifs amateurs qui nous écoutent. Quand c'est votre échéance de l'année, il n'y a pas le stress d'une finale mondiale, donc quoi qu'il arrive, c'est du plaisir.
Ouais, il y a du stress, mais il faut le prendre par le côté plaisir, tu vois. Il faut se libérer, vous êtes là pour vous faire plaisir, personne ne vous a forcé à venir, et faites-vous plaisir, tu vois, c'est l'estime de soi qu'on se donne et la valeur qu'on se donne et donnez-vous et puis voilà.
Je vous rappelle la phrase de mon épouse, il y a personne qui te paye pour le faire.
Voilà.
Tu vas pas te plaindre.
Si tu vas te mouiller à ta compète, tant pis pour toi.
Exactement. Agathe, reste avec nous tout de suite, le bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et là, Agathe et témoin, là, on a une chaussure compète. Hein. Ah, t'as vu ce truc que j'ai entre les mains? J'ai la nouvelle Mizuno Wave Rebellion Pro 2. C'est cette chaussure révolutionnaire. Donc, c'est le modèle ultra rapide de chez Mizuno. On va en parler avec un ami d'RMC Running qui était venu l'an dernier déjà nous présenter la Wave Rider, qui est l'autre modèle iconique de la marque. C'est Mehdi Travelsi qui est avec nous. Salut Mehdi.
Bonjour Benoît.
Mehdi qui est responsable marketing chez Mizuno. On est ravis de te revoir. Toi aussi, ça galope. On voit ça sur Strava, hein, toujours un peu.
Bah, c'est gentil, merci. Nous aussi, ça nous fait plaisir d'être présents. Donc, c'est vraiment cool. Merci Benoît.
Voilà, et j'ai donc ce modèle dans les mains. Agathe, je vais te le passer aussi. une chaussure ultra légère. Et ce qui choque tout de suite, vous avez peut-être déjà vu ou sinon allez voir sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours ce manque de talons pour cette chaussure, qui est une chaussure ultra rapide, Mehdi. Et c'est la première question, c'est que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Hein.
Alors oui, on s'adresse à un certain public. Le public, il est plutôt destiné aux coureurs assidus, d'accord, à un certain niveau, avec un certain pied.
Ouais.
Le record qu'on peut voir sur l'arrière du pied, effectivement, il y a une partie qui est un peu vide. Ce qui permet, c'est vraiment une technologie, ce qui permet de favoriser le déroulé du pied. Donc à partir de réception d'une foulée, on va avoir un pied qui va être guidé et qui va propulser vers l'avant.
Alors quand on parle de coureurs assidus, ça veut dire, est-ce que tu peux nous donner un peu le niveau de coureurs requis pour courir avec?
Alors, si je parle sur une performance...
En termes de 10K, semi-marathon...
Voilà. Sur un 10 km, on va être aux alentours de... À partir de 34-35 minutes.
Ouais, voilà. Donc là, on est à moins de 3,30 au kilo. Donc, on a plus de 17 km/h.
Exactement.
Voilà.
Donc, forcément, on va avoir un athlète qui sera très régulier à l'entraînement.
Ouais.
Du coup, il va vraiment ressentir à travers cette chaussure-là un rebond et un dynamisme maximal par rapport à cette technologie.
Ok. Est-ce que c'est une chaussure qui s'utilise rarement? C'est-à-dire que nous, on a fait beaucoup d'émissions et de podcasts avec Johan sur l'utilisation des plaques carbone. Mm-hmm. Johan est plus d'ailleurs un adepte de l'utilisation minimale, c'est-à-dire seulement pour les compètes ou les séances de grande qualité.
Oui.
Est-ce que toi, c'est ce que tu conseilles avec ce type de modèle?
Alors, Johan, je rejoins Johan aussi, il a raison.
Pour garder le gain du carbone et le gain d'une chaussure pareille, parce que là, c'est...
Exactement. Je pense que c'est important de la réserver uniquement en compétition, ainsi qu'aux séances spécifiques à l'heure course.
Ouais.
D'accord. Okay. On va avoir, nous, une famille de rebellions qui compose trois modèles.
Ouais.
On a juste le modèle juste en dessous, qui est moins, je dirais, moins...
moins élite.
Moins élite et moins exigeant, d'accord, qui est la Rebellion Flash. La Rebellion Flash, on va pouvoir l'utiliser à l'entraînement.
Okay.
Donc, que ce soit sur le tempo, des séances spécifiques, des séances VMA, etc. Sortie longue, celle-là, elle est vraiment idéale parce que ça va nous permettre de conserver quand même une chaussure performante, d'accord, de bien récupérer derrière. et ensuite de quand même de conserver la Rebellion Pro uniquement à l'usage course.
Johan, tu vois à quoi ça ressemble cette chaussure? Parce que il y avait le modèle 1 qui était sorti déjà avec un coloris très particulier, donc ça vous a forcément marqué si vous l'avez croisé un peloton avec ce modèle tacheté noir et blanc. Donc on l'a remarqué tout de suite cette chaussure. Et puis vraiment cet aspect visuel de chaussure sans talons, Agathe. Hein, c'est vrai que quand on la voit comme ça, Agathe, c'est particulier. Agathe, elle pense à une blessure, j'ai l'impression. Quand on regarde ça.
Chaussure usée.
Non, mais moi je le dis, Mehdi, d'ailleurs, pour l'avoir utilisé. Alors moi j'ai pas le niveau requis de ce que tu as dit, parce que moi, j'ai pas un record sous les 35 minutes aux 10 km, mais moi, c'est une chaussure, le premier modèle que j'utilisais moi pour mes VMA courtes et que je trouvais très très efficace. Oui. Rarement sur de la longueur, mais sur de la séance piste VMA courte 400, 500, voire 800 mètres.
Oui.
Là, je trouve ça idéal pour aller chercher des chronos, mais encore, j'ai même jamais testé sur du 2, 3000, 4000. Donc,
mais justement, elle est intéressante. Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise uniquement à l'approche d'une course, donc à 2 semaines.
Ouais.
Je vais l'utiliser sur des séances un peu longues, comme à partir de 2000, 3000, 4000.
Ouais.
Ça va me permettre justement de commencer à avoir une certaine habitude de ma foulée et de vraiment cibler mes allures avec.
Quelle est la différence entre le modèle la Pro 2 et la Pro de l'an dernier alors
entre la première version et celle-ci, on va avoir c'est le même poids, donc on est sur un 215 grammes.
Ouais, c'est tout léger, hein. Franchement, c'est. Ouais.
Sur les deux, sauf que la première version. Le retour qu'on avait, c'est qu'on avait une partie qui était assez en interne du pied. Le bloc semelle était séparé. Donc, en fait, il y avait un retour qui était un manque de stabilité sur la première version.
Okay.
Donc, on a justement modifié sur cette deuxième version. Donc, on est sur un bloc semelle. La mousse, elle est pleine. Elle est juste creusée en interne pour un gain de poids et que la plaque fasse son effet à 100%. Donc, on est sur une deuxième version qui est beaucoup plus stable que la première.
Okay.
D'accord. On a un drop qui est beaucoup plus bas. La première version, on était sur un drop de 4,5 et celle-ci, on est sur un drop de 1,5. Alors pourquoi? C'est que la chaussure, elle est un peu plus basse. On ne le ressent pas forcément parce qu'il y a un stack de mousse qui est assez important. Du coup, ça fausse un peu le drop, mais ça permet de
gagner. Le stack, c'est la hauteur de mousse.
Le stack, c'est l'épaisseur de mousse.
L'épaisseur de mousse, ouais, pardon.
Ouais. Et ce qui va nous permettre justement de gagner en stabilité.
Ok. C'est vrai que c'est un modèle assez particulier, on le disait, donc cette Wave Rebellion Pro 2. Combien ça coûte déjà, tout simplement?
Alors, celle-ci, elle est à 240 euros.
Voilà, donc c'est un modèle là aussi assez cher, mais à utiliser vraiment avec parcimonie, ce qu'on disait.
Exactement.
Pour ça. Est-ce que, parce que nous, ce qu'on se dit quand on la voit, on se dit, si moi j'ai une attaque talon, comme c'est souvent le cas pour les marathoniens, je ne peux pas courir avec une chaussure pareille. Est-ce que c'est conseillé pour des coureurs qui ont une attaque médio-pied, ou est-ce que même quelqu'un qui a une attaque talon, sur du court, peut aller chercher ce type de chaussure?
Alors, c'est une bonne question, Benoît. Aujourd'hui, on a une team Mizuno, avec de différents coureurs, différentes.
J'ai vu Dorian Louvet courir le marathon de Paris avec ça.
Hein. Exactement.
On l'a vu, on était sur la ligne avec Johan. Hein. Ouais, il a fait 2h20, je crois.
Et 2h23.
Ouais, 2h23.
Et du coup, on a de différents coureurs, dont un, Julien Devanne, que vous connaissez peut-être, qui était champion de France de marathon et de semi-marathon. Mm-hmm. Et lui, il a tendance à talonner. Donc, vraiment. Donc. Ce modèle-là, c'est ce qu'il me disait, en tout cas, Julien, lui, là, il ressent pas forcément que ça tire pas trop sur les tendons à l'arrière. C'est justement, ça favorise vraiment le déroulé du pied.
Ok. Ouais. Donc, la durée de vie d'une chaussure comme ça, c'est combien de kilomètres?
On est aux alentours, avec cette mousse-là, on est aux alentours de 600 kilomètres.
Ok. Donc, si on l'utilise qu'en compète, ça peut quand même durer,
durer
un peu de temps. Sur les distances, bon, Dorian a fait le marathon avec, est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'on se limite au semi ou au 10? Ou au 5000 aussi, si on fait un peu de distance plus.
Alors, sur cette version-là, donc la deuxième, qu'on a gagné beaucoup plus en stabilité, moi, je vais plutôt la conseiller du 5 jusqu'au marathon, d'accord? Et après, c'est toujours, il faut faire attention à l'athlète. Donc, on s'adresse vraiment à un public qui est assidu, encore une fois. Donc, forcément, un athlète, je dirais, amateur, qui va aller sur une distance marathon avec ce modèle-là, ça risque de.
Ouais, faut éviter.
Ouais. De compliquer.
Et puis de toute façon, il faut déjà s'adapter avec sur des courtes distances avant de voir si on peut tenir un peu plus longtemps.
Exactement. Il y a un temps d'adaptation avec ce modèle-là.
Ouais, ok.
Effectivement.
L'actu de Mizuno, est-ce qu'il y a d'autres actus? La Wave Rider, est-ce qu'on a encore un nouveau modèle? C'est le modèle iconique. Est-ce que ça va ressortir encore?
Eh bien, écoutez, chaque année, on est sur une nouvelle édition. On va arriver sur la Rider 28.
Ouais.
Donc on a un grand changement.
28, incroyable.
Ouais, 28 ans. Ouais. Voilà. On va arriver sur un nouveau chausson et une nouvelle mousse.
Ouais.
Que malheureusement, je ne vais pas pouvoir
bien sûr.
Plus en détail.
Non, on en parlera plus tard.
Et bien, justement, ça sera une troisième venue avec plaisir.
Et bien voilà, exactement.
Et aussi, on a un nouveau modèle aussi qui va arriver. Donc, un modèle plutôt qui va rentrer dans la catégorie entraînement rapide.
Ouais.
Qui va arriver pour la saison prochaine aussi.
Ok. Où est-ce que je la retrouve si je veux l'acheter ?
Chez nos magasins spécialistes.
Ok. Donc, les magasins revendeurs de Mizuno.
Exactement.
Est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet aussi ?
Bien sûr.
Elle est dispo sur les différents sites ?
Oui.
Ok. Bon, bah, magnifique. Mehdi, merci en tout cas pour cette présentation.
Merci.
Les coloris, parce que là, celle-ci est rouge. Vous avez quoi comme coloris pour ce modèle ?
Alors, nous avons deux coloris. Donc, on a le coloris blanc et le coloris rouge.
Ok. Évidemment, Geoffrey Charpie m'a crié dans les oreilles, magnifique, parce que lui, il adore les couleurs flashy, donc le rouge, ça lui plaît. Bon, bah écoute, c'est très belles chaussures en tout cas. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et puis, on fait gagner un modèle à notre communauté. Une info supplémentaire à me donner ? Non, c'est bon, on a tout donné.
C'est tout bon.
On a fait le tour. Écoute, magnifique chaussure, la Wave Rebellion Pro 2. On vous mettra la photo sur nos réseaux. Le test d'écoute pour postuler justement au tirage au sort, il est très simple. On vous demande le record d'Agathe au saut à la perche. Elle l'a dit tout à l'heure en junior.
Elle l'a dit ?
Voilà, écoutez, tu l'as dit, hein ?
Oui,
tu sais, tu sais que tu l'as dit, donc moi aussi je l'ai entendu. Geoffrey l'a entendu aussi, donc c'est bon, c'est confirmé. Donc vous nous trouvez ça, et comme ça, vous pouvez postuler au tirage au sort. Mais allez-y vraiment, si vous êtes des coureurs rapides ou des coureuses rapides, ça s'adresse aux femmes aussi.
Exactement.
Mais vous pouvez vous faire plaisir et aller chercher de gros chronos avec ce type de chaussures. Agathe, merci d'être venue. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi.
Merci à vous.
On se revoit bientôt, hein, de toute façon. Hein. Aux Europes, aux Jeux Olympiques, tu seras là pour faire briller la France, hein, on l'espère. Hein.
J'espère.
Et le record de France en plein air doit tomber. Hein.
Ouais.
Moins de 4.
D'accord.
Là, c'est une barrière. Hein.
Ouais.
Là, c'est une barrière mythique, moins de 4.
Et Yodu, tu m'as dit, il va tomber ce record.
Oui, j'y crois.
Et voilà.
Je peux même donner la date.
Ah, quand ?
Je le garde pour moi. J'ai pas regardé le calendrier.
Ah, d'accord. Parce que tu connais pas le calendrier.
Il y a un 1500 à Monaco ? Il y a un 1500 à Monaco ?
Oui, il y a un 1500 à Monaco et à Paris.
Ah.
Allez, elle le bat à Paris et après elle le rebat à Monaco.
Ah, okay.
Donc ça, deux fois, double prime. Bon. Double prime
et
comme
voilà.
Un Bobka.
Et voilà, ça c'est du calcul aussi. On passe pas qu'au ranking et au record, on pense au prime.
Moi je pense à l'argent.
T'as raison.
Vivre.
Bon, en tout cas, merci Agathe. Et puis la tradition pour terminer, la chanson que tu as choisie, la chanson que tu écoutes quand tu cours, tu infliges ça à tes partenaires d'entraînement.
Non, c'est juste avant mes compètes.
C'est avant les compètes.
Ah bon.
Mais
comment ça s'appelle ?
Je peux l'infliger un petit peu.
Voilà.
C'est les Ramoneurs de Menhir.
Voilà, les Ramoneurs de Menhir.
C'est ça, c'est breton, ça ?
Bien sûr.
Alors, quand même, oh. C'est du punk breton.
J'ai l'impression que c'est les Tortues Ninja.
Non.
Je te jure, quand j'étais petit, il y en avait une qui ressemblait à ça.
Et t'imagines, t'es à l'entraînement avec elle et elle te met ça à fond, quoi. Oh, oh.
Un plaisir.
Merci Agathe d'être venue. Merci à Mehdi Travelsi d'être venu. À bientôt. Mizuno, marque de référence, n'hésitez pas. Merci Maître Yodu pour tous tes conseils. C'était passionnant de t'écouter encore. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. La balade blanche termine.